Philosophie de l'art, Philippe, 11 novembre 1982, Rimont.
Je réponds tout de suite à cette question, bien qu'on ne pourra y répondre pleinement que lentement. Comment comprendre la phrase de Baudelaire, l'art n'a rien à voir avec la morale? C'est tout ce que nous avons, ce que nous essayons de faire. Hein. C'est d'essayer de voir.
C'est un très gros problème.
C'est un très très gros problème, cette question de l'art et de la morale. C'est un problème sur lequel il faudra revenir indéfiniment, parce que c'est difficile. Hein. Faut comprendre d'abord ce que c'est la philosophie de l'art. Et si nous faisons ce cours sur la philosophie de l'art, c'est pour essayer de comprendre qu'il y a dans l'activité artistique quelque chose de sui generis. C'est-à-dire qu'il y a dans l'activité artistique quelque chose d'original, de propre, distinct de l'activité morale. Mais il faut d'abord distinguer pour unir,
mais pas pour subordonner.
Il y a deux positions qui sont extrêmes dans ce problème de l'art et de la morale.
La position première qui consiste à dire
l'art est soumis à la morale.
Et l'autre position extrême,
l'art n'a rien à voir avec la morale.
J'ai dit rien à voir, vous comprenez bien.
Alors que de fait, le point de vue moral et le point de vue de l'art, tous les deux se rattachent à l'homme. Et une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre qu'il peut y avoir des rapports entre le moral et l'art. Alors, avant une petite image, hein, vous avez déjà vu dans des forêts quelque chose de curieux, hein, un tronc magnifique, et surtout quand on voit des sapins. Alors vous voyez, dès le point de départ, le tronc est divisé en deux. Ça fait toujours penser à l'art et à l'orage. Et alors, vous voyez le tronc, il y a rien, il est tout de suite là, c'est l'homme. Alors ça dépend comment on le conçoit, vous voyez. Il y a des gens qui conçoivent, oui, il y a d'abord un tronc commun, et puis à partir de là, et puis sur une petite branche, le point de vue de l'art, hein, il faut y avoir des petits dessins différents comme ça. Et alors vous verriez tout de suite la différence. Vous voyez là, l'agir humain. Et puis sur l'agir humain, le point. Donc il meurt. Non. Faut prendre ce chêne-là. De fait, de l'homme, dans l'ordre pratique, hein, parce que c'est pas entièrement dans l'ordre pratique, vous allez avoir l'agir et le fracturer. Je dis fatchéré parce que c'est très difficile à traduire, hein, l'activité artistique. Le fatchéré, l'agir et le fatchéré, l'agiré, le fatchéré, c'est le terme latin. L'agir et le faire. Toutes les deux s'enracinent dans l'homme. C'est pour ça qu'il faut venir à l'homme pour comprendre la dépendance, pour comprendre la relation qui peut exister entre l'art et la morale. C'est dans l'homme. C'est pas dans l'art que se fonde la morale. Et ce n'est pas dans la morale que se fonde l'art. Nous portons en nous ces deux jumeaux qui constamment impliquent une rivalité. Mais si je pouvais mesurer pour chacun d'entre vous le développement de l'agir et du fatchéré, ça m'éclairerait beaucoup sur des comportements. Chez certains d'entre vous, l'agir, l'activité morale est très développée et l'activité du fatchéré très peu développée. Pour d'autres, au contraire, le fatchéré est très développé, l'activité poétique est très développée. Vous êtes des poètes depuis le verso, c'est très très développé, tout a été dans ce sens-là, l'aspect poétique, et l'agir très peu développé. Et pour d'autres, c'est à peu près égal, c'est un égal, c'est normal. L'un un peu plus gros, l'autre un peu plus maigre. Et la sève qui vient de l'homme. On a un capital de vie limité. Ça, c'est sûr. Alors, notre capital de vie part du côté poétique, du côté du fatchéré. Notre capital de vie part du côté de la vie. Et vous comprenez qu'il n'y a pas que ces deux branches, parce qu'il y a encore la connaissance spéculative.
par la connaissance spéculative, elle commence dans le fond, hein, dans le souvenir comme ça. Les deux branches visibles, c'est la Dieu le Père. Je mets les deux branches visibles, mais de temps en temps, il y a des rencontres entre les deux. Alors, il y a l'aspect politique. L'aspect politique, c'est les interférences entre les deux. Il n'y a pas de politique sans interférence du faire et de l'agir. Il n'y a pas de politique sans interférence du faire et de l'agir. Une politique qui serait de la pure efficience machiavélique. La politique machiavélique est de la pure efficience, c'est une politique d'art, uniquement. Machiavel conçoit le point de vue de la politique comme un art, uniquement, sans autre point de vue moral. Et puis avec d'autres activités politiques qui sont purement moralisantes. On voit très bien, je ne veux pas citer des noms, mais on voit très bien, hein, un aspect politique purement moralisant. Alors la famille, c'est la politique. Il n'y a plus que la famille. Mais non, la politique, ce n'est pas la famille. La politique doit respecter la famille, mais la politique, c'est autre chose. La politique, c'est toujours le fait de la vie. Et quand vous avez un aspect politique de pur facturer ou de pur agir, ça fait des catastrophes. Donc vous voyez, les trois niveaux de l'homme, hein, c'était très important dans l'ordre pratique. Alors je donne ce petit chèque parce que c'est imaginatif et ça nous aide à comprendre. Et dans le fond, le développement de l'aspect spéculatif de l'homme, l'aspect spéculatif est au sommet de la philosophie première, l'aspect le plus spéculatif, très à long, vous ne comprenez pas, mais il est quelque chose de très important, et c'est ça qui va dominer en définitive. Hein. C'est ça qui va aller plus loin, c'est bien évident, que la philosophie première va plus loin d'une certaine manière que l'aspect poétique et l'aspect magique, d'une certaine manière. Quand Maritain dit que l'intuition poétique va plus loin que l'intuition métaphysique, par la connaissance de la réalité, c'est quand même quelque chose de très très curieux, ça. Parce que c'est pas uniquement, vous voyez, quand vous regardez uniquement le point de vue moral et le point de vue artistique, c'est très bien, mais il faut tout de suite ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a le point de vue magique, il y a le point de vue fait, il y a le point de vue politique, il y a le point de vue contemplatif. La philosophie première défend le point de vue de la contemplation. La contemplation est un au-delà de l'agir, la contemplation est un au-delà du poète. C'est un au-delà. Et la philosophie première est là pour défendre l'autonomie de la contemplation. Si l'Église maintient une métaphysique, c'est pour maintenir les chartreux. C'est pour ça, c'est pas pour autre chose, il faut bien le dire, c'est pas pour autre chose. C'est pour maintenir le primat de la contemplation. Si vous n'avez pas de métaphysique, vous ne pouvez pas maintenir le primat de la contemplation. C'est absolument impossible. La philosophie première est là pour maintenir un primat de la contemplation. C'est très curieux, ça, mais c'est intéressant à saisir, parce que dès que la métaphysique n'existe plus, n'est plus exercée, n'est plus enseignée, immédiatement, on ne comprend plus la place de la contemplation. On ne comprend plus les contemplatifs à l'état pur, les chartreux, ça ne se voit plus. On ne peut plus les contempler, on ne peut plus accepter, vous voyez, ce que représente l'ermite, le contemplatif qui est hors de la cité. Parce que dans une conception alors plus liturgique, l'aspect de la communauté l'emporte. Parce que la liturgie est communautaire. Alors que la contemplation est solitaire. C'est le point de vue de la contemplation est solitaire. Par définition, vous poussez jusqu'au bout la contemplation, vous aboutissez nécessairement à la solitude. C'est impossible autrement. La contemplation est solitaire alors que la liturgie est communautaire. Ça, ne faut pas l'oublier. Vous voyez ? Et les oppositions qu'on peut avoir vis-à-vis de l'aspect communautaire, on les a vis-à-vis de la liturgie. Et les oppositions qu'on a vis-à-vis de la solitude, on les a vis-à-vis de la contemplation. C'est curieux ces choses-là. C'est intéressant de les comprendre, vous comprenez, d'en avoir une vision limpide, parce que chacun d'entre nous, on est plus ou moins communautaire, plus ou moins solitaire. C'est sûr. Pas à l'état pur, mais quand même plus ou moins. L'agir et le facturer sont au niveau communautaire, ça fonde la communauté. Mais au-delà, il y a la contemplation. Et au-delà de la contemplation, et qu'est-ce qui défend la contemplation ? C'est la philosophie première. La connaissance spéculative conduit à la contemplation. Et c'est comprendre le primat du solitaire. On est d'abord des solitaires avant d'être des gens. D'abord, selon l'ordre de perfection. Et on est d'abord des êtres communautaires selon l'ordre génétique. Je vous l'ai dit, hein, les deux orientations. L'ordre génétique et l'ordre de perfection. Selon l'ordre génétique, on est tous nés normalement dans une famille. Et si on n'est pas né dans une famille, il y a une autre famille qui nous a adoptés. Donc au fond, c'est la famille. Et la famille, c'est la communauté. C'est le premier moment d'être humain, d'être génétique. Selon l'ordre génétique, on est d'abord des êtres communautaires. Et selon l'ordre de perfection, on est d'abord des êtres solitaires. Très curieux ce combat qu'on peut ressentir en soi. Alors il faut pas, il faut supprimer le tragique qu'il y a dans ce combat. Ça peut devenir tragique, hein. Ça peut devenir tragique. On peut très bien voir les moines solitaires qui tirent par les cheveux les moines communautaires, c'est des fameux combats, ça peut très bien se comprendre, ces choses-là. Parce que c'est une question de vie. C'est pas une question de secondaire, c'est une question de vie, c'est une question de finalité. C'est une question de finalité, donc c'est une question de vie au sens profond. Et ça va très loin. Bon, alors, ceci c'est simplement pour montrer que le problème touché là de Baudelaire, la phrase de Baudelaire, n'est-ce pas, l'art n'a rien à voir avec la morale, c'est très juste au niveau spécificatif. Au niveau de la structure de l'art. L'art, comme tel, a sa structure, elle n'est pas morale. Mais au niveau de l'exercice de l'art, alors l'homme intervient, au niveau de l'exercice, c'est différent. On ne peut pas dire que l'art n'a rien à voir, parce que l'art reste humain, et donc reste une activité de l'homme. Si c'est une activité de l'homme, dès qu'on parle de l'homme, la morale intervient. Mais c'est par l'homme, c'est pour ça que je dis que c'est par le tronc. C'est par le tronc commun. On peut découvrir quand même, il peut y avoir. Parce que dans leur développement propre, donc ils ont un développement sui generis. Le développement du facere est différent du développement de l'agir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, tous les problèmes d'aujourd'hui, quoi. Les technocrates et puis les hommes de gouvernement. Un technocrate n'est pas nécessairement un homme de gouvernement, même souvent il n'est pas. Un technocrate, il est développé du côté du facere. Du côté de l'efficacité, du côté de l'efficience. Tandis qu'au contraire, un homme d'autorité, c'est autre chose, il a un sens de la finalité, il a un sens moral, normalement. On ne peut pas être un homme d'autorité sans morale, sans prudence, impossible. Tandis qu'on peut être un technocrate excellent sans prudence. Vous voyez tous ces problèmes qui se rejoignent au point de vue politique, c'est bien évident. Si on a une vision politique technocratique ou une vision politique humaine. Alors on voit tout de suite, au point de vue philosophique, les liens entre les deux. Bon, ceci c'est pour vous montrer que ces problèmes que nous touchons sont les problèmes actuels. Hein. Si nous ne les voyons pas à leur racine, en essayant de comprendre ce que c'est que l'agir et le facere, on est dans la confusion. Toutes les sessions que j'ai pu faire à des chefs d'entreprise, c'était toujours la distinction entre le facere et l'agir. Et ça les libérait d'un tas de choses. Ils comprenaient beaucoup de choses à partir de là. Vous voyez que, en effet, c'est le grand problème humain. Et c'est le grand problème, je dirais, d'une communauté. Le grand problème d'une communauté, le respect qu'on a vis-à-vis des uns des autres, c'est de comprendre que chez les uns, le facere est plus développé, chez les autres, l'agir est plus développé, chez les autres, l'aspect contemplatif est plus développé. Ça fait trois. Au point de vue politique, on ne s'occupe pas beaucoup des confrontations, c'est différent, non ? Mais le point de vue, dans une communauté religieuse, dans une communauté contemplative, alors l'aspect contemplation joue. Alors il y a les trois facteurs, hein, les trois facteurs qui jouent. L'aspect de l'aspiration contemplative, qui doit toujours finaliser, l'aspect de l'agir, qui commande le point de vue des rapports personnels et prudentiels, et le point de vue du facere, qui est le point de vue de l'efficacité. Mais qu'à essayer de réfléchir sur un petit règlement de vie que vous vous donnez. Hein. Vous avez l'efficacité, il faut travailler, travail, l'efficacité. Vous avez le point de vue de l'agir, la charité fraternelle. Puis vous avez la contemplation, la solitude. Et au fond, c'est vrai, il faut mettre une mixture entre les trois pour pouvoir garder un équilibre d'homme, un équilibre humain, transformé par la grâce. Alors la grâce, et puis je regarde aux conditions naturelles, la grâce qui va venir s'implanter dans ces trois aspects, la contemplation, l'agir et le facteur. La grâce, c'est une autre trinité que celle-là. Là, vous voyez, cette trinité-là, elle est philosophique. La grâce est d'abord contemplative. Donc la grâce saisit en premier lieu l'aspect contemplatif. La grâce saisit en second lieu l'agir. Et la grâce saisit en troisième lieu le facturé. Il y a un ordre, hein. N'allez pas dire que la greffe de la grâce va saisir également les trois plans, pas du tout. C'est d'abord la contemplation, en premier lieu par la foi. Puis c'est l'agir par la charité fraternelle et la prudence. Puis c'est l'aspect du factuel, par la liturgie. C'est la liturgie, c'est un factuel. Un factuel divin, transformé par la grâce, mais c'est un factuel. Il y a une œuvre liturgique, vous voyez. Il y a une œuvre liturgique, et l'œuvre liturgique, c'est vraiment une réalisation de quelque chose. Oui. Oui, mais le contenu, croyez que c'est parce que vous faites un devoir que vous allez chanter bien. Ça va être beau. Vous savez, les gens qui sont au devoir, vous savez, ça c'est tout à fait le devoir, c'est ce qu'on raconte toujours des chanoines. Ils récitent leur récit parce qu'ils sont là, mobilisés. Et puis leur âge arrive. Arrêtons, prions. Vous voyez bien ce que c'est, ça. Ils sont mobilisés. Alors ça, c'est évidemment, c'est une caricature, hein. Je suis tout à fait d'accord. C'est que la liturgie, c'est complexe, hein, la liturgie. Et je veux regarder la liturgie. Elle est une œuvre de charité fraternelle. Elle est une œuvre d'église. Vous voyez ? Et elle implique quelque chose de sui generis. Et c'est ce sui generis que je dis, c'est le patrimoine. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est il y a trois aspects successifs que vous regardez dans la théologie, dans la liturgie. Si vous voulez faire la théologie de la liturgie, oui, vous regardez d'abord la charité fraternelle, vous regardez ensuite l'Église, et vous regardez en troisième lieu le conduit, où vous mettez l'Église, la charité fraternelle et le conduit sur l'Église. Là, il y a, d'une certaine manière, c'est au même plan. Alors, il y a la charité fraternelle, il y a l'Église, et puis il y a le facturé. C'est quand même une œuvre. Hein. Vous êtes mobilisé, hein, quand la liturgie, vous êtes mobilisé. C'est pour ça qu'on vous dit normalement, tenez-vous de telle manière en liturgie, on est mobilisé. On est mobilisé pour faire une œuvre d'église. On fait une œuvre d'église. C'est pour ça qu'il y a un certain anonymat dans la liturgie. Oui. C'est autre chose que l'oraison où l'aspect personnel et l'aspect contemplatif est beaucoup plus immédiat. Tandis que là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes mobilisé. Et vous devez faire une œuvre. C'est une œuvre liturgique, une œuvre qui glorifie Dieu et qui aide le prochain. C'est pour ça que la liturgie doit être belle. Tandis que vous ne l'avez jamais dit, il faut que votre oraison soit belle. Vous voyez ? Très curieux. Vous qualifiez la liturgie parce que c'est une œuvre. Ergon, il y a une œuvre. Une œuvre divine. C'est complexe, hein? C'est complexe, mais ce que je veux dire, c'est que le contenu spécifique de la liturgie doit se comprendre par le facteur. Et parce que de fait, il n'y a plus eu, il faut le reconnaître, il n'y a plus eu dans la tradition de l'Église une philosophie de l'art. Cherchez bien la tradition de la philosophie de l'art dans la scolastique, décadente. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est parce qu'il n'y a plus de philosophie de l'art qu'il y a une telle pénurie d'une théologie de la liturgie. Parce que vous ne pouvez pas faire une théologie liturgique sans une philosophie de l'art. Impossible. Alors vous ferez une théologie liturgique alors au niveau moral, alors en disant c'est le devoir. C'est bien, c'est sûr que c'est le devoir. mais il y a quelque chose de tout à fait propre à la liturgie qui doit glorifier Dieu. Oui. C'est pour ça que je dis, il y a les différents éléments, les trois éléments, hein, dans tout aspect. On fera un jour, si on peut, un petit cours sur une philosophie liturgique, et alors on aurait là l'art chrétien, tu vois. Dans quelle mesure pourrons-nous dire art chrétien? On dit éthique chrétienne et art chrétien. Je crois qu'il y a un art chrétien. Si un art chrétien, c'est évidemment la liturgie. Et le philosophe doit s'intéresser à ce que je vous présente cet art chrétien. La construction des cathédrales, ces langues, si vous voulez, c'est un art chrétien. C'est une œuvre chrétienne. C'est une œuvre qui ne peut pas se comprendre en dehors de la foi. Et alors on doit essayer de comprendre ce que c'est, le lien, comment la foi assume un art chrétien. Et comme on peut se poser la question, y a-t-il une politique chrétienne, vous voyez ? Éthique chrétienne, art chrétien, politique. Alors est-ce qu'il y a une politique chrétienne ? Vous voyez ? Très grave problème, hein. Des problèmes difficiles à préciser, parce que justement c'est complexe, parce que la politique ne peut pas se comprendre en dehors de l'art, donc en dehors de l'efficacité, et en dehors de l'agir. Autrement dit, y a-t-il une efficacité chrétienne? C'est un très très gros problème, c'est un problème auquel je crois, voyez, la philosophie que nous allons faire ensemble, cette philosophie du Facere, nous aide à comprendre. Parce qu'on va essayer de comprendre ce qu'il y a de caractéristique dans l'activité du facere. L'activité du facere est distincte de l'activité de l'agir. L'activité morale est autre chose que l'activité artistique. En prenant l'activité artistique au très grand sens. Bon, ceci c'est préambule pour vous faire entrer dedans, à cause de la question. Alors, je vais continuer un tout petit peu ce que nous avions commencé la dernière fois pour arriver progressivement à nous poser le problème de ce que représente une philosophie du facere. Une philosophie du facere. Une philosophie, alors c'est difficile à traduire, du faire, en faisant grave attention. Hein. Une philosophie du facere. La philosophie de l'agire. De tout ce qui peut bien se comprendre. Enfin, c'est pour ça que je donne des termes latins, parce que de fait, ils sont antérieurs aux termes français. Alors, ils sont intéressants à voir. Et chez Aristote, ça existe. Il y a une philosophie de la poiesis. La philosophie de la poiesis, c'est ce qu'on appellera la poésie. Ceux qui ont beaucoup de courage peuvent lire la poétique d'Aristote. Il faut avoir beaucoup de courage. C'est quelque chose de très intéressant, très beau, difficile, très difficile, parce que justement l'activité artistique, comme nous le verrons, c'est ce qui est le plus complexe. Alors ce qui est le plus complexe, c'est ce qui est le plus difficile à analyser. Et ce qui est le plus difficile à analyser, c'est notre facere. C'est beaucoup plus difficile d'analyser le facere que d'analyser l'agire. Parce que c'est encore plus complexe. Le facere saisit l'homme tout entier, dans sa sensibilité, dans tout ce qu'il est, et dans tout son contexte. Ça, c'est pour ça que c'est si prégnant, le point de vue du facere, le point de vue de l'activité artistique. Alors, donc, l'aspect poétique, c'est l'aspect du facere. Et alors, première chose qu'il faut bien saisir, qui est une distinction typiquement aristotélicienne, parce qu'elle n'a pas été dite avant, et qu'elle a été reprise par saint Thomas. Et une distinction que je crois que nous devons maintenir. Pas parce qu'elle est d'Aristote, mais parce qu'elle correspond à quelque chose de réel dans l'homme. C'est la distinction, vous voyez, qui fonde tout ce que nous allons voir comme philosophie du facere. C'est la distinction dans la connaissance intellectuelle pratique, le point de vue de l'agir et le point de vue de la réalisation pratique. Autrement dit, la connaissance intellectuelle pratique est double. Elle est double. Elle est morale, elle est éthique, je donne exprès ces noms différents, on dira aussi bien morale qu'éthique. Et elle est artistique. Alors pourquoi diviser dans la connaissance intellectuelle pratique les deux? C'est une distinction que ne fait pas le marxisme. Ça veut dire que je suis un. Si vous êtes marxiste, vous ne pouvez absolument pas comprendre cette distinction-là. Oui, c'est intéressant parce que ça nous fait comprendre comment la dialectique hégélienne supprime toutes les distinctions. Nous avons vu précédemment dans un autre cours, si vous vous souvenez bien, la distinction entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique. La connaissance intellectuelle, c'est premièrement spéculative. Elle est deuxièmement pratique. Et dans le pratique, elle est morale et elle est artistique. Et bien, si vous preniez la dialectique hegélienne ou la dialectique marxiste, c'est la même renversée, vous verriez que dans une pensée dialectique, vous ne pouvez pas faire ces distinctions. La connaissance spéculative n'existe jamais à l'état pur. La connaissance pratique et la connaissance poétique sont liées. Alors, comment justifier dans la réalité, parce qu'il ne s'agit pas de répéter Aristote, il s'agit de comprendre. Hein. Mais Aristote est un photon indicateur, c'est intéressant. Il a fait cette distinction-là et saint Thomas l'a reprise. Et saint Thomas, en la reprenant, l'a analysée. Alors, est-ce que nous devons, nous, continuer de la reprendre? Et vous comprenez bien que si ces distinctions sont des distinctions qui correspondent à la réalité, je comprends tout de suite comment la philosophie doit s'orienter en philosophie spéculative, en philosophie pratique, philosophie éthique, et puis philosophie de l'art, philosophie poétique. S'il n'y a pas de distinction au niveau de la connaissance, alors je ne peux pas faire ces distinctions-là. Oui. C'est pour ça que c'est là un aspect critique que je fais là. J'ai essayé de justifier un cours de philosophie de l'art, en philosophie. Je le justifie comme un cours distinct de la philosophie éthique et de la philosophie morale. Parce que la connaissance intellectuelle pratique s'oriente vers le point de vue moral ou s'oriente vers le point de vue pratique, vers le point de vue artistique. Alors, nous avions déjà vu, je le rappelle simplement, parce que c'est des choses qu'il faut essayer progressivement de comprendre. Parce que quand vous êtes en face d'un marxiste, c'est pas si commode que ça, hein, lui faire comprendre ça. Alors, c'est la première chose que vous devez lui faire comprendre. De libérer son intelligence. Hein. Il y a des distinctions pour libérer. Si on est dans la confusion, on reste dans la confusion. On n'avancera pas et on sera toujours dans un tunnel. Parce que la confusion, c'est le tunnel. Et le tunnel est d'autant plus grand quand on est en phase de tournant. Alors à ce moment-là, c'est particulièrement obscur. Et donc il faut essayer de comprendre qu'il y a dans la connaissance intellectuelle cette distinction très fondamentale d'une connaissance spéculative, d'une connaissance pratique. Comment se fait cette distinction? Premièrement, du côté de la finalité. La connaissance spéculative recherche la vérité pour elle-même. La connaissance spéculative recherche la vérité pour elle-même. Ça n'existe pas dans la dialectique. Dans la dialectique hegélienne, on ne cherche jamais la vérité pour elle-même. Pourquoi? Parce que on est toujours dans un moment dialectique. Quand il n'y a pas de vérité pour elle-même. S'il y avait une vérité pour elle-même, elle serait au-delà de la dialectique. Alors la dialectique reviendrait objective. Elle reviendrait face au réel. Alors, la connaissance spéculative recherche la vérité. La connaissance pratique, elle aussi recherche la vérité. Mais une vérité tout autre. C'est une vérité pratique, c'est peut-être autre chose. La connaissance intellectuelle pratique va essayer d'ordonner, elle ordonne, elle va essayer d'ordonner l'agir, mon action. Elle va ordonner mon agir, mon action. C'est autour du problème de la prudence qui donne l'intéressance, que je comprends que c'est l'éthique. J'ordonne mes connaissances. Mais si je recherche la vérité, c'est pour atteindre, c'est pour pouvoir agir bien. Quelle est la finalité de la connaissance intellectuelle pratique? C'est de bien agir. C'est de bien agir.
Donc, c'est une connaissance qui n'est pas recherchée pour elle-même. C'est une connaissance qui est recherchée pour bien agir.
C'est l'action qui finalise la connaissance.
C'est pour ça que cette philosophie-là, cette connaissance-là n'est pas ordonnée vers la contemplation, elle est ordonnée vers l'action.
Et il y a une autre finalité, c'est l'œuvre.
Alors je peux dire que la connaissance pratique, la connaissance intellectuelle pratique est finalisée par l'action, elle est finalisée par l'œuvre.
L'œuvre, c'est pas l'action, c'est le fruit d'une action, c'est l'œuvre. Nous avons donc là les trois finalités de la connaissance intellectuelle. Il est important de bien voir ces trois finalités. La vérité, l'action morale, l'œuvre.
Il n'y en a pas d'autres. Vous pourriez dire que d'une certaine manière, il y en a une autre, une quatrième, qui serait le bien commun. Oui, alors ce serait la coopération. Alors vous pourriez dire d'une certaine manière, c'est vrai, parce que le bien commun et d'une certaine manière une œuvre.
Quand vous réalisez un bien commun, quand vous coopérez avec quelqu'un d'autre,
vous réalisez un bien commun. Et ce bien commun, d'une certaine manière, finalise ma connaissance pratique.
Vous voyez, mais ma connaissance pratique politique.
Alors je pourrais ajouter, je mets là un bémol, parce que c'est tout à fait particulier, mais je pourrais le mettre, politique. Il y a une connaissance intellectuelle pratique politique qui est finalisée par le bien commun.
C'est vrai, la connaissance politique est finalisée par le bien commun. Et c'est autre chose. Alors, vous voyez, par le fait même, si vous avez distingué, et si vous pouvez distinguer ça, et je crois qu'on peut tous le faire, ça. Alors là, j'en appelle à vos expériences. Quand vous faites la cuisine, vous devez être intelligent. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. Et votre réflexion, elle est finalisée par l'œuvre. Si vous réalisez un plat qui est complètement raté, qui est trop cuit, et qui est immangeable, on vous dira, écoutez, recommencez pas, c'est quand même pas ennuyeux. On va dire, ah non, c'est admirable dans ma tête. Oui, mais voyez le résultat. Vous aviez peut-être d'excellentes intentions. Ah, j'avais des intentions extraordinaires, je voulais faire quelque chose de merveilleux, et j'avais dans la tête quelque chose de merveilleux. Donc là, vous condamnez votre action par le résultat qui est complètement à côté.
Tandis qu'au contraire, si vous avez quelqu'un qui veut agir moralement et qui fait une gaffe, il a une très bonne intention.
Oui, ne vous inquiétez pas, vos intentions sont pures, elles sont bonnes.
Les autres ne comprendront pas, mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est votre intention pure qui compte.
Quand vous êtes en morale, c'est l'intention qui compte. Quand vous êtes dans une activité artistique, c'est l'œuvre qui compte.
Vous voyez comment on confond les deux, hein? Quand vous regardez hein, les services de quelqu'un qui est engagé, vous regardez ses œuvres, et c'est très rare que vous regardez ses intentions. C'est ses œuvres que vous regardez.
Vous dites, ah, comme résultat, c'est pas énorme, mais c'est un très bon artiste.
Mais alors, je vais tout dire, à ce moment-là,
c'est un très bon artiste. Il a un cœur d'or, mais il rate tout. Complètement, il a un cœur d'or, c'est merveilleux, ses intentions, c'est très très pur, mais il rate tout. Je ne sais pas ce qu'on fera faire de lui, mais on lui a mis dans tous les métiers, tout à rappel.
Mais il a un cœur d'or, c'est merveilleux.
Alors, là, il n'a plus qu'à être moine, vous voyez. Il a un cœur d'or, c'est merveilleux, ses intentions, mais il rate tout. Mais on fait la distinction constante dans la vie. Et c'est vrai, on fait la distinction constante entre ce que représente l'agir et le faire. Le faire, vous regardez l'œuvre. Et puis l'agir, vous regardez les intentions. Et c'est vrai que l'homme implique les deux. Pourquoi l'homme implique les deux? C'est parce qu'il y a l'âme et le corps. L'âme, c'est avec l'âme, si on était des anges. Dans les anges, y a-t-il du facere? Ça, c'est un problème théologique, hein. Mais on peut le poser au point de vue philosophique aussi. Est-ce que les substances séparées, pour prendre le langage d'Aristote, les substances séparées ont-elles un art particulier? Ou est-ce que l'art est propre à l'homme? Parce que l'homme est dans un monde qu'il doit transformer. C'est l'homme relativement à l'univers. C'est l'homme face à l'univers. Et l'homme face à l'univers doit transformer l'univers. Dominer. Hein, la parole qui est donnée dans la vie, dominer l'univers. Dominer l'univers, ce n'est pas une œuvre morale. Tandis qu'aimer sa femme, ça c'est une œuvre morale. Oui, très différent. Parce que si vous voulez la dominer et la transformer comme une matière à transformer, ce n'est pas précisément l'amour. L'amour respecte l'autre tel qu'il est. Tandis que le point de vue artistique consiste à modifier la matière devant laquelle vous vous trouvez. C'est un peu trop chaud comme ça. Si vous confondez les deux, c'est très bien. Vous n'aurez plus d'amis. Je pense que c'est bien. C'est tellement commode de vouloir modifier les choses qui ne doivent pas être modifiées quand on n'a pas à les modifier. On n'a pas gratté ça pour ça. Donc vous avez là deux grandes activités humaines qui sont totalement différentes. Une activité humaine dont la rectitude est la rectitude de l'intention, et l'activité humaine dont la rectitude est la perfection de l'ordre. Il faut réaliser une œuvre qui soit propre, qui soit correcte, qu'on peut l'utiliser. Oui, donc il y a deux finalités différentes, trois finalités différentes. La connaissance implique trois finalités différentes. La vérité, l'action, l'intention. Et puis, la réalisation du monde. Si de fait, il y a vraiment trois finalités différentes, je peux donc dire qu'il y aura trois orientations philosophiques différentes. La connaissance spéculative, qui recherchera la vérité pour elle-même. Ce sont des mœurs différentes. Je chercherai la vérité pour elle-même. Quand je fais de la métaphysique, je cherche la vérité pour elle-même. Quand je fais de la morale, j'essaie de comprendre la grandeur d'une bonne intention. Et quand je fais de la philosophie artistique, ce que nous faisons maintenant, nous essayons de comprendre comment une activité humaine peut transformer l'univers. C'est la transformation de l'univers, par où je domine l'univers. Et par où je transforme, pour me permettre d'être plus moi-même. C'est toujours l'homme qu'on cherche, mais l'homme dans trois ses dimensions. L'homme contemplatif, l'homme capable d'aimer, l'homme capable de dominer l'univers et de transformer. C'est trois dimensions de l'homme. La contemplation, l'amour et le naturel, la domination. C'est curieux ça, hein. C'est intéressant de retrouver au niveau philosophique les trois dimensions de l'image de Dieu. De l'humour, intelligence et le point de vue de la vie. Vous retrouvez les trois finalités. Alors, c'est l'homme dans, que je recherche selon les trois dimensions différentes. Le point de vue de la contemplation, le point de vue de la qualité d'aimer, sa capacité d'aimer. Tout l'agir, c'est la capacité d'aimer. Hein. Si je fais une philosophie éthique, c'est pour comprendre qu'il y a dans l'homme une capacité de rejoindre un autre homme et d'aimer. Hein. C'est la capacité d'aimer, tandis que l'agir. Tandis que facturé, c'est la capacité de domination et de transformation et d'efficacité. C'est la philosophie de l'efficacité, la philosophie de l'agir, la philosophie de facturé. Tandis qu'au contraire, la philosophie de l'agir, c'est la philosophie de la fécondité. Parce que c'est la base d'amour. Pour comprendre ce que c'est que la fécondité. La fécondité provient toujours de l'amour. Tandis qu'au contraire, l'efficacité provient du travail. Et provient du facturé. C'est dans la mesure où je peux dominer et transformer l'univers en une œuvre qu'il y a quelque chose de nouveau. Bon, je constate cela. Je peux peut-être aller plus loin et essayer de justifier cette constatation en disant tout à l'heure, c'est parce que l'homme est un composé de l'âme et du corps qu'il y a en lui cet agir et ce faire. C'est à cause du corps qui me lie à l'univers que je suis partie de l'univers, que j'ai contact avec l'univers, et parce que j'ai contact avec l'univers, je peux transformer l'univers. Vous voyez, c'est à cause du corps qu'il y a une philosophie du Pacherec. Tandis que c'est l'âme qui commande toute la philosophie de la vie. Et c'est l'esprit qui commande la philosophie de cette vie. L'âme et l'esprit. Si je veux saisir un peu le fondement pour bien comprendre comment c'est vraiment l'homme spirituel, l'homme avec une âme spirituelle, qui est capable justement de son amour d'amitié, l'âme esprit qui est capable de contemplation, et puis l'âme qui est capable, parce qu'elle est unie au corps, de transformer l'univers. Si mon âme n'était pas unie au corps, je ne pourrais pas transformer l'univers. Je pourrais peut-être agir dessus, alors c'est une autre question, savoir si les substances séparées ou si les anges peuvent agir sur notre univers. C'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que mon activité intellectuelle prend ces trois dimensions et ces trois orientations. Une fois que vous avez compris cela, maintenant nous allons essayer d'entrer dans le problème propre du Fatscherer. Petite remarque avant, vous voyez, c'est que de fait, hein, puisque ce sont deux frères jumeaux, l'activité artistique et l'activité morale, il faudra donc toujours, à travers l'analyse que nous faisons de l'activité artistique, regarder l'activité morale. Ça nous fera en parallèle, parce que ça c'est clair, et ça nous aide beaucoup à comprendre. Ça nous aide beaucoup à avoir un peu de lucidité sur nos activités. Quand vous écoutez un cours, est-ce que c'est une activité morale? Est-ce que c'est une activité du factuel? Est-ce que c'est une activité spéculative? Parce que c'est un peu ça. Vous me direz, ah, c'est complexe, ça implique tout ça. Oui, ça implique tous ces éléments, c'est très vrai. Alors, la grande question, y a-t-il des activités humaines qui sont du pur Fatscherer? Y a-t-il des activités humaines qui sont du pur agir? Ça, c'est une très grave question. Et très importante. Mais vous voyez, nous ne pourrons la traiter qu'après avoir analysé ce que c'est que le Fatscherer, ce que c'est que l'agir. Frapper, est-ce que c'est de l'agir ou du facteur? C'est respecter un règlement. Alors voyez, ça c'est l'esprit politique. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.